RFI, grand reportage.
Trump a décidé qu'il n'accepterait pas les centres américains. Mais nous, on a des problèmes graves. C'est pour ça qu'on est parti de chez nous. Et on ne peut pas y retourner. On va se battre jusqu'au dernier moment. Je préfère vivre ici que mourir là-bas.
Le magazine de la rédaction nous emmène aujourd'hui au Mexique, à Ciudad Juárez, une ville située à la frontière avec les États-Unis. Là-bas, des milliers de migrants se retrouvent forcés à une longue et dangereuse attente à quelques mètres de leur destination finale. Ciudad Juárez, ville purgatoire au pied du mur de Trump, c'est un grand reportage de Alix Hardy.
Nous sommes à l'église du Buen Pastor, le Bon Pasteur. Elle est située dans un quartier modeste, gris et poussiéreux comme il y en a tant à Ciudad Juárez.
Passons par ici. Ici, on a le coin des femmes seules, sans enfants. Là, ce sont les toilettes et l'endroit où elles lavent leur linge.
C'est la sœur Martha qui s'occupe de l'accueil.
Comme vous voyez, ici, on est dans la maison de Dieu. Comme on n'avait plus de place, on les a fait dormir dans la chapelle. On leur demande de ranger leurs affaires pour la messe, pour pouvoir prier. On n'avait pas vocation à être un refuge, mais on a dû faire ça parce qu'on ne pouvait pas laisser dehors ceux qui sonnaient à notre porte. On a 160 places, mais à un moment, on a hébergé jusqu'à 270 Cubains.
Cette église évangélique s'est convertie il y a 2 ans en centre d'hébergement pour migrants. Ces derniers mois, le Bon Pasteur a été débordé de demandes, comme tous les autres hébergements de la ville. C'est ce qu'a constaté Enrique Valenzuela, le fonctionnaire qui supervise la réponse des autorités face à l'arrivée massive de migrants à Ciudad Juárez.
Depuis octobre 2018, les gens arrivent de partout. On a dû développer tout un réseau d'hébergements volontaires, particulièrement grâce aux églises. Certains nous ont dit « on n'est pas des refuges, mais on a un toit à leur offrir ». Le phénomène migratoire a changé. Avant, les migrants n'étaient que de passage. Les gens qui y restaient, c'était parce qu'ils l'avaient décidé. Maintenant, les gens restent ici parce qu'ils sont bloqués à la frontière.
C'est le nouveau défi de Ciudad Juárez. Cette ville mexicaine, frontalière avec El Paso, au Texas, s'est transformée en salle d'attente géante pour le compte des États-Unis. Car ces derniers mois, les lois qui limitent l'immigration se sont multipliées sous l'impulsion du président américain. Depuis sa campagne électorale en 2015, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration un argument politique. Son cri de ralliement...
We're gonna build the wall, we have no choice.
Build that wall, build that wall, build that wall.
C'est-à-dire construisons un mur à la frontière avec le Mexique. 3 ans plus tard, pas une seule brique n'a été posée. Mais pendant ce temps, le président américain a créé un mur invisible, fait de lois d'immigration sévères qui restreignent l'accès aux droits d'asile. Ce jeudi matin, des dizaines de migrants sont réunis à quelques mètres du pont Paso del Norte qui relie Ciudad Juárez au Texas. Comme chaque jour, ils attendent de savoir si leur tour d'être reçu par les Américains pour demander l'asile est arrivé.
Nos quedamos el día de ayer en el 12.958, 59, 60.
Depuis des mois, les demandes d'asile sont enregistrées au ralenti par les États-Unis. Au lieu d'être reçues directement par les autorités américaines, il faut désormais prendre un numéro et patienter longtemps. À Ciudad Juárez, l'attente peut durer jusqu'à 6 mois.
Il y a près de 19 000 personnes sur la liste d'attente. Chaque jour, 10 ou 20 personnes passent, tout au plus. Quand, en novembre dernier, c'était jusqu'à 70 personnes par jour. Puis c'est devenu 50, puis 40. Il y a eu un moment où plus personne n'était appelé pour passer de l'autre côté.
Heidi fait partie des gagnants du jour. Cette Hondurienne est conduite avec sa sœur et leurs enfants jusqu'au milieu du pont international, là où s'arrête le Mexique et commencent les États-Unis. Ce jour-là, le vent souffle si fort qu'on se croirait sur un navire. Dans quelques minutes, les agents migratoires américains les laisseront entrer et Heidi pourra enfin faire ce pour quoi elle a voyagé jusqu'ici, déposer une demande d'asile aux États-Unis.
Cela fait 6 mois qu'on est ici à Juárez. Oui, bien sûr qu'on a perdu espoir, souvent même. Mais maintenant, on essaie d'aller de l'avant. Je suis venue pour mon fils car les gangs ont essayé de le recruter. Et le mari de ma sœur fait déjà partie d'un gang. Alors elle est venue avec ses enfants pour les sauver de ça.
Mais peu de migrants ont les ressources et le courage d'attendre si longtemps dans une ville aussi hostile que Ciudad Juárez. Alors de plus en plus, ils décident de court-circuiter la file d'attente en pénétrant illégalement aux États-Unis pour y demander l'asile. Car la loi américaine autorise les migrants à solliciter l'asile quel que soit leur mode d'entrée dans le pays, légal comme Heidi ou illégal. Enrique Valenzuela explique.
Disons que 30 personnes sont passées par le pont chaque jour en avril, ce qui fait dans les 1000 en un mois. Pendant ce temps, 27 000 migrants traversaient la frontière en dehors des postes frontières. Au final, ceux qui passent par le pont, c'est une proportion minime.
Des chiffres impressionnants qui servent bien à la stratégie de Donald Trump, explique Luis Guerra, bénévole de l'ONG Clinique, qui défend les droits des migrants.
La gente no quiere quebrar la ley.
Personne ne vient avec l'intention d'enfreindre des lois. Entrer clandestinement aux États-Unis, c'est illégal. Mais il n'en reste pas moins que tu as le droit de demander l'asile si tu le fais. Du coup, forcément, beaucoup de migrants se désespèrent de l'attente pour entrer légalement et ils finissent par traverser illégalement la frontière. Et c'est très précisément ce que l'administration Trump cherche, que dans les journaux, on dise que les migrants envahissent le pays. Les autorités ferment la porte et ils disent « Vous n'entrerez pas. Et ensuite, ils vont dire à la télé, regardez, ils entrent par la fenêtre, évidemment, puisque la porte est fermée à double tour.
Dans le cas de Heidi, ce qui a justifié qu'elle attende si longs mois, c'est le danger que peut représenter une traversée illégale au mauvais endroit.
Bien sûr que ça nous a traversé l'esprit de traverser illégalement. Mais on est venu avec plusieurs enfants et ils ne pourraient pas supporter le risque de la traversée. Ceux qui passent par le fleuve risquent de se noyer et le désert aussi est dangereux. C'était mieux d'attendre sur la liste, d'être appelé au pont.
En juin, une image glaçante faisait le tour de la planète. Celle d'Oscar, un Salvadorien de 25 ans, noyé dans les eaux du Rio Bravo avec sa fille de 2 ans, alors qu'il tentait d'atteindre la rive américaine du fleuve. Samuel Avila Alfaro et sa famille ont eu plus de chance. Ils se sont enfuis du Honduras à cause des gangs qui menaçaient leur famille. Arrivés à la frontière, leur passeur leur a indiqué où traverser sans danger, là où on aperçoit déjà au loin les gratte-ciels d'El Paso, la ville du Texas, qui se trouve juste derrière la frontière.
Quand j'ai aperçu la tour de la banque Wells Fargo, alors j'ai pris ma femme dans mes bras et je lui ai dit « ça y est, on l'a fait ». À ce moment-là, on avait l'espoir que tout ce que l'on avait traversé allait enfin en valoir la peine. On a traversé dans le lit du fleuve à sec, là, juste sous le pont. Et là, la border patrol n'a pas tardé à nous embarquer.
Mais la famille, qui pensait avoir fait le plus dur, a rapidement déchanté. Car après avoir déposé leur demande d'asile, au lieu de rester sur le sol américain, la famille a été renvoyée au Mexique.
Ça, c'était une vraie surprise. On n'avait pas du tout prévu que les choses se passeraient comme ça. De ce qu'on avait compris, de ce que nous avait dit, ce qui était passé avant nous, on devait rester aux États-Unis. On devait attendre le résultat de notre demande d'asile là-bas, avec un bon travail, beaucoup plus de facilité qu'ici.
Depuis janvier, 51 000 demandeurs d'asile ont ainsi été renvoyés au Mexique en vertu d'une nouvelle règle instaurée par l'administration Trump fin 2018. Le nom de ce nouveau programme, le Protocole de protection des migrants, expliquait Kirsten Nielsen, alors secrétaire à la sécurité intérieure américaine.
Nous sommes en situation de crise à notre frontière sud. À partir de maintenant, les individus arrivant aux États-Unis par le sud pourront être renvoyés au Mexique pour la durée de la procédure d'immigration. Ils ne pourront plus disparaître aux États-Unis. Ils devront attendre d'avoir été autorisés pour pouvoir y mettre les pieds. En réponse, le Mexique a affirmé qu'il fournirait une aide humanitaire ainsi que d'autres protections aux migrants renvoyés sur leur sol pendant qu'ils attendent une décision des États-Unis sur leur cas.
En décembre 2018, Nielsen parle du soutien du Mexique à ce programme comme s'il allait de soi. En fait, ce n'est qu'après un chantage aux taxes douanières en juin dernier que Washington a forcé Mexico à freiner les migrants pour le compte des États-Unis. Le programme devait assurer une migration plus sûre, promettaient les autorités américaines. À Ciudad Juárez, personne ne partage cet avis. Yadelki Batista et Hermes Carvajal ont fui la persécution politique qu'ils vivaient à Cuba. Le couple ressort tout juste des bureaux de l'immigration américaine, où ils ont déposé leur demande d'asile. Ils ont encore en main les sacs plastiques qu'on leur a distribués pour y mettre leurs effets personnels.
Ils nous ont envoyés dans la gueule du loup pour être dévorés. Voilà ce qu'ils ont fait. Ici, nous ne sommes pas en sécurité. Pas du tout.
Un rapport de l'ONG Human Rights First a recensé plus de 340 cas d'agression, viol, kidnapping ou extorsion de migrants à la frontière depuis la mise en place du programme dit de protection des migrants. Et c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, ce à qui l'ONG a pu parler. Yadelki a été confrontée à la délinquance qui gangrène la ville de Juárez.
Ici, tu ne peux pas sortir de chez toi. Tu finis même par avoir peur des taxis parce que tu crains qu'ils te kidnappent ou qu'ils te volent. On m'a agressée quand je sortais de l'hôtel avec mon mari. On allait acheter de quoi manger. Ils m'ont arraché mon sac et m'ont frappée. Là, j'ai la preuve des coups que j'ai reçus. Dans le sac qu'ils m'ont volé, il y avait nos deux passeports.
Autrefois de passage, les migrants de Ciudad Juárez sont désormais des voyageurs bloqués à quelques mètres à peine de leur but. Et les villes frontalières mexicaines doivent s'adapter. Même si le flux migratoire a beaucoup diminué depuis que le Mexique a posté des milliers de soldats dans le sud du pays, à Ciudad Juárez, les migrants sont bien là et les ralentissements aux postes frontières aussi. Cette habitante exaspérée est à l'arrêt dans sa voiture sur le pont en direction d'El Paso.
Ça fait plus d'une heure que j'attends. Avant, il fallait une heure pour passer. Maintenant, avec les migrants, c'est deux ou trois. C'est beaucoup trop. Moi, je n'ai pas le choix, je dois m'en rendre en face. Regardez, la moitié du pont est fermée. Avant, il y avait trois filles et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Pour nous qui vivons sur la frontière, les migrants ont vraiment compliqué notre quotidien.
Rogelio Pinal, en charge des droits de l'homme pour la ville de Ciudad Juárez, estime que le Mexique n'a pas à payer le prix des manœuvres de son voisin du Nord.
J'appelle ça faire le sale boulot des États-Unis parce que ça me semble anormal qu'on retienne ces gens ici simplement pour satisfaire les autorités américaines. Les règles changent tous les jours et les changements viennent de là-bas. Ici, les gens viennent nous voir et nous disent « Ça fait 6 mois que je suis ici, je ne peux pas travailler et je n'ai rien à manger. Aidez-moi, dites-leur de me recevoir enfin. » Et nous, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Les autorités américaines ne nous disent rien et nous, on n'a rien à dire à ces migrants. Nous ne sommes pas la salle d'attente des États-Unis. Nous sommes un autre pays, autonome et indépendant.
Autonome, indépendant.
Juan se lanzó marchándose al norte. Iba en busca de una vida digna.
L'obligation de rester au Mexique pendant l'instruction de leur dossier pose un autre problème aux migrants. Il réduit à néant leur chance de trouver un avocat pour défendre leur demande d'asile. La plupart exercent aux États-Unis. Samuel Alfaro a contacté un par un les avocats de la liste fournie par les autorités américaines. Mais en vain. Sur la feuille, il y a 16 noms pour des milliers de demandeurs d'asile.
Ici, tout est compliqué. On a besoin de trouver un avocat. C'est impossible à faire depuis ici. Un avocat saura quoi dire, quelle loi invoquer pour qu'on nous accorde l'asile. Mais personne de la liste ne m'a répondu. Tout le monde a reçu la même. Je ne sais pas s'ils existent vraiment, ces avocats, ou pas. Mais en tout cas, je n'ai pas eu une seule réponse.
Cela n'étonne pas le bénévole Luis Guerra, dont le travail est justement de défendre les droits des migrants.
Le gouvernement dit que les migrants ont le droit d'avoir accès à un conseil légal. Mais ici, c'est pratiquement impossible, parce que les avocats spécialistes ne sont pas basés ici. Alors en gros, les migrants qui sont ici sont enfermés dans un pays étranger avec peu ou pas d'accès à l'information et aux ressources légales qui devraient être les leurs.
L'organisation Clinique est l'une des rares ONG à avoir dépêché des volontaires à Ciudad Juárez pour aider les migrants dépassés par la procédure légale. Ce jour-là, Luis et sa collègue Tania Guerrero ont posé leur sac au centre d'hébergement pour migrants Leona Vicario, tout juste ouvert par les autorités fédérales.
Si ustedes no pueden conseguir un abogado de inmigración,
face à un groupe de centra-américains en plein désarroi d'avoir été renvoyé au Mexique, Luis explique les grandes lignes de ce qui les attend.
Tout le monde a bien ses papiers, là? Ok, bon, alors, je veux d'abord m'assurer que tout le monde a bien compris ce que signifient ces papiers. Beaucoup d'entre vous doivent avoir une feuille qui leur donne la date de leur audience au tribunal d'immigration américain. On va vérifier ensemble que vous savez tous quand se tiendra votre audience et quand il faudra vous présenter au poste frontière, ok?
Au fur et à mesure, les visages de ces auditeurs se décomposent. Une jeune femme guatémaltèque ose une question.
Que on nous dise Donc si on est venu pour des raisons économiques, est-ce qu'on a des chances de réussir à entrer aux États-Unis?
Non, il n'y a pas moyen.
Non?
Non.
Et il y a des gens qui ont réussi à entrer en attendant ici et en allant aux auditions et tout?
Oui, il y a des personnes à qui on a accordé l'asile, mais ils l'ont obtenu parce qu'ils ont pu prouver qu'ils étaient en danger dans leur pays.
Souvent, les migrants arrivent très mal informés, expliquent les deux bénévoles.
La majorité des gens qui arrivent ici ne savent rien de l'asile. Ils ne comprennent pas comment ça marche. Alors, il faut y aller étape par étape. Beaucoup ne savent pas comment se rendre aux tribunaux. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient déjà en procédure d'asile. On nous a même rapporté des cas de personnes qui pensent qu'elles ont été refoulées vers leur pays d'origine quand on les renvoie au Mexique en attente d'une décision. Les gens ont peu d'informations et ils se basent sur les récits d'autres personnes dans leur cas. Du coup, on commence par des choses très, très basiques.
La vérité, c'est que ces personnes arrivent ici après un voyage long, rempli d'incertitudes. Quand elles déposent finalement leur demande d'asile et qu'on les renvoie ici, dans le cadre de ce nouveau programme, elles sont dépassées et elles sont déjà allées tellement loin dans leur démarche que le seul truc qu'il leur reste à faire, c'est de continuer d'aller de l'avant. Au final, la question de savoir si on leur accordera l'asile ou non reste très abstraite, ambiguë. C'est une notion qu'ils ont du mal à s'approprier.
Dans son exposé, Luis a averti les migrants de la dernière règle en date de Donald Trump. Une nouveauté qui date de septembre. Autorisée par la Cour suprême américaine, cette mesure bannirait de la procédure d'asile tous les migrants qui n'auraient pas tenté leur chance d'abord dans un pays traversé avant d'arriver aux États-Unis. Un Salvadorien, par exemple, devrait avoir demandé l'asile sans succès au Honduras, au Guatemala ou au Mexique, pour pouvoir finalement candidater aux États-Unis. À cette idée, Samuel, le père de famille hondurien, rit jaune.
Moi, ça me semble complètement absurde, cette histoire, parce que je viens du Honduras. Alors, il serait en train de suggérer que le Honduras pourrait être un pays considéré comme sûr quand il a un des indices de mortalité les plus élevés d'Amérique latine, comme le Mexique, le Guatemala. Et il voudrait nous faire croire que c'est un pays sûr. C'est un mensonge. Personne ne demandera l'asile là-bas.
La légalité de cette règle est actuellement débattue devant les tribunaux américains qui pourraient l'annuler. Mais en attendant, cette avalanche de nouvelles restrictions complique beaucoup la tâche des deux bénévoles.
Pour expliquer le droit d'asile, je dis souvent que c'est comme gagner au loto. Il y a des stratégies pour augmenter ses chances de gagner, mais au final, la majorité des paramètres ne relèvent pas de votre contrôle. Sur quel juge vous allez tomber, est-ce que vous avez un avocat ou pas, quelle cour va traiter votre dossier, car il existe des tribunaux plus ou moins favorables. Vous n'avez donc aucune prise sur tout ça, et pourtant, ce sont des éléments déterminants. Actuellement, le système migratoire américain n'a plus de sens. Il n'y a pas d'issue possible.
Les jours passent et Samuel est de plus en plus pessimiste.
Eh bien non, moi je pense que c'est mal parti là. Tous les gens de l'hébergement qui sont allés à leurs audiences en sont revenus avec une ordonnance d'expulsion. De l'extérieur, on dirait un programme sérieux qui rassure la communauté internationale, mais en fait, tout est déjà joué. Trump a décidé qu'il n'accepterait pas les Centra-Américains. Mais nous, on a des problèmes graves. C'est pour ça qu'on est parti de chez nous. Et on ne peut pas y retourner. On va se battre jusqu'au dernier moment. Je préfère vivre ici que mourir là-bas.
Face aux portes des États-Unis qui se ferment devant lui, Samuel pourrait envisager de renoncer et de s'établir au Mexique malgré sa mauvaise opinion du pays. Beaucoup ont déjà suivi le même raisonnement. En 2019, le Mexique a déjà reçu plus de 60 000 demandes d'asile. C'est 4 fois plus qu'en 2017.
Ciudad Juárez, ville purgatoire au pied du mur de Trump. Un grand reportage de Alix Hardy. Réalisation Eva Piedel. Un magazine à retrouver sur le site de RFI. Immigration me persigue et non sé qué pasará.